Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales. C'est le podcast de l'IDRI. Au fil des épisodes de Cap sur la transition, on évoque ce défi posé à tous les secteurs d'activité et à l'ensemble de la société, atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, c'est-à-dire que nos émissions de gaz à effet de serre soient égales ou inférieures au carbone qu'on arrive à absorber, stocker ou réutiliser. Et pour réduire notre empreinte carbone, il existe une sorte de feuille de route, la stratégie nationale bas carbone, qu'on appellera peut-être parfois SNBC, pardon d'avance. Coup de projecteur sur une équation complexe à mettre en œuvre, la réduction de l'empreinte carbone du secteur agricole. Et celle qui nous éclaire aujourd'hui sur le sujet, c'est Aurélie Catalot, directrice du programme Politiques agricoles et alimentaires en France. C'est parti. Bonjour Aurélie Catalot.
Bonjour.
Petite précision avant d'entrer dans le vif du sujet, cette stratégie nationale bas carbone dont on parle aujourd'hui, elle ne s'impose pas seulement à l'agriculture, mais bien à l'ensemble des secteurs d'activité, hein, bâtiment, transport, industrie, production énergétique.
Tout à fait. La stratégie nationale bas carbone est la vocation à couvrir tous les secteurs. En France, en l'occurrence, on est en train de négocier sa troisième version qui correspondra à la déclinaison du paquet climat de l'Union européenne qu'on appelle dans notre petit jargon le Fit for 55. Et ce Fit for 55, il vise lui-même à traduire concrètement la trajectoire fixée par l'accord de Paris, à savoir une réduction des émissions d'au moins 55% d'ici 2030. Mmh. Ceci étant dit, quand bien même la stratégie nationale bas carbone couvre tous les secteurs, on ne demande pas le même niveau d'effort à tous les secteurs parce qu'ils ne sont pas égaux dans leurs fonctions et dans leur fonctionnement. Pour l'agriculture, on sait que c'est un secteur qui a pour fonction de nous nourrir, donc c'est un secteur tout à fait essentiel. Mmh. Et par ailleurs, c'est un secteur qui travaille le vivant, il cultive la terre, il élève des animaux, et ça génère des émissions incompressibles. Donc on accepte que le secteur agricole ait des émissions résiduelles beaucoup plus importantes que d'autres secteurs. Mmh. Après, ce n'est pas parce que l'ampleur de la baisse demandée à l'agriculture est moins importante que d'autres secteurs qu'elle ne doit pas quand même fournir la contribution qui lui est effectivement demandée.
Et en même temps, à l'agriculture, on lui demande d'autres formes de contribution à la décarbonation.
Tout à fait, on lui en demande deux autres. Premièrement, stocker du carbone dans les sols. Et deuxièmement, fournir de la biomasse à des fins non alimentaires pour contribuer à la décarbonation d'autres secteurs, comme la méthanisation par exemple. Mmh. Et pour complexifier encore un peu l'équation, ces différentes contributions de l'agriculture à la décarbonation se font dans un contexte où, premièrement, produire de l'alimentation, ça reste quand même la première mission de l'agriculture. Deuxièmement, on sait qu'il peut y avoir une tension entre des manières d'améliorer le bilan carbone de l'agriculture et un autre objectif environnemental tout aussi indispensable qu'est la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles. Et troisièmement, l'agriculture, comme d'autres secteurs, subit déjà les effets du changement climatique et fait donc face à un fort impératif d'adaptation.
Alors nous, on se concentre aujourd'hui sur l'un de ces grands enjeux de cette stratégie, à savoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Quels sont, Aurélie, les objectifs pour le secteur agricole et quand ont-ils été fixés ?
En juillet 2023, c'est là que le gouvernement a acté, dans le cadre de la planification écologique, qu'on demande désormais au secteur agricole de réduire ses émissions de 13 millions de tonnes de CO2 d'ici 2030 par rapport à 2022. Mmh. Or, les simulations qu'a réalisées le ministère de l'Agriculture montrent qu'en l'état actuel des choses, c'est-à-dire avec ce qui est déjà dans les tuyaux en matière de politique agricole d'ici 2030, ça ne va pas suffire pour atteindre cet objectif. Donc la révision de la stratégie nationale bas carbone, elle doit permettre de déterminer comment le secteur agricole peut se remettre dans les clous de cet objectif.
Alors pour ça, il faut décider concrètement comment faire pour atteindre cet objectif qui correspond à 16% de réduction des émissions d'ici 2030. Ça arrive très vite.
Oui, et c'est bien ça l'enjeu de la négociation de la stratégie nationale bas carbone version 3. C'est de savoir comment on répartit l'effort au sein de chaque secteur et quels leviers activer pour atteindre ces objectifs.
Vous pouvez nous rappeler ce qui émet des gaz à effet de serre dans ce secteur agricole ?
D'abord, le premier poste d'émission du secteur agricole, c'est le méthane, qui est issu de la fermentation entérique des ruminants, c'est-à-dire le processus de digestion des vaches ou des moutons, et ce, à hauteur de 40%. Juste derrière, on a les émissions associées à l'utilisation d'engrais sous forme de protoxyde d'azote, qui a un pouvoir réchauffant beaucoup plus important que le CO2, et ce, à hauteur de 37%. En troisième place, avec 12%, on a les émissions de CO2, liées notamment aux engins agricoles ou encore au chauffage des serres. Et puis, dernièrement, on a les émissions dues au stockage des effluents d'élevage à la fois des ruminants et des monogastriques.
Et donc, on se dit qu'assez logiquement, il faudrait réduire le cheptel et l'utilisation d'engrais dans les sols aussi, mais ce n'est pas si simple, évidemment.
Bah, sur le papier, si, c'est bien ça qu'il faudrait faire. Mmh. Mais en pratique, réduire les cheptels et les engrais, ça a des conséquences majeures, notamment socio-économiques, sur tout le fonctionnement de notre système alimentaire. Alors politiquement, pour le moment, il est jugé préférable de mobiliser ces deux leviers qu'avec une grande prudence, on va dire, et à côté, on tente un peu de faire des miracles avec d'autres leviers. Mmh. Concrètement, en l'état actuel de la proposition, on envisage une baisse de cheptel pour les bovins de 12% et une baisse du cheptel des porcs de 8%, sachant que ces deux chiffres sont déjà légèrement inférieurs à la baisse tendancielle qu'on observe déjà ces dernières années. Et par contre, on ne propose aucune baisse du cheptel de volaille. Concernant la baisse des engrais, il est bien proposé de réduire de 30% l'usage d'engrais minéral, mais en le compensant entièrement par d'autres formes de fertilisation qui, elles non plus, ne sont pas neutres climatiquement.
Est-ce que ça suffirait à revenir dans les clous, pour reprendre votre expression ?
Pour que ça marche, ça suppose un peu de faire des paris peu vraisemblables sur notre capacité à activer fortement d'autres leviers.
Quels autres leviers ?
Je vais prendre un exemple. On nous dit qu'on veut doubler les surfaces cultivées en légumineuses et, en même temps, diviser par deux nos importations de soja. Sauf qu'une étude de l'IDRI a montré que multiplier par deux les surfaces cultivées en légumineuses en France, ça me permettrait de réduire nos importations de soja que de 30%. Et en plus, ce doublement de surfaces en légumineuses, ça présente un défi colossal de viabilité économique pour les fermes françaises, quand on sait qu'un soja OGM importé des Amériques coûte au moins 50 euros la tonne moins cher que faire du soja chez nous.
Ouais, donc la marge est bien moindre pour les agriculteurs.
Tout à fait. Un agriculteur français qui implante une légumineuse dans son champ, plutôt que du blé ou du colza par exemple, il va faire 2 à 6 fois moins de marge.
Ah ouais,
ça permet de comprendre pourquoi on a tant de mal à faire décoller la production de légumineuses en France. Et pour couronner le tout, le premier consommateur de soja en France, c'est le cheptel de volaille, celui dont je vous ai dit tout à l'heure qu'on se proposait justement de ne pas le faire baisser. En clair, il faut aider l'agriculture française à créer une filière rémunératrice pour les légumineuses. Bref, on a devant nous, de manière générale, un immense défi de recréation de filières françaises à la fois bonnes pour le climat et générant de la valeur pour les agriculteurs.
Alors, on comprend que l'équation globale est très complexe. Est-ce qu'il existe un scénario idéal auquel vous auriez réfléchi à l'IDRI ?
Alors, on va commencer par être modeste. Non, l'IDRI n'a pas la solution parfaite. Mais par contre, on essaye d'identifier les pistes, on va dire les moins mauvaises, en dialoguant avec les acteurs agricoles, les pouvoirs publics et les ONG. Et selon nous, il y a un nœud autour de la transition des filières d'élevage. D'une part, en raison de la contribution directe de l'élevage aux émissions de gaz à effet de serre, et d'autre part, parce que la demande en alimentation animale exerce une pression sur les rendements des productions végétales. Je rappelle que 60% de la surface agricole française sert à nourrir nos animaux d'élevage. Donc si on veut pouvoir lever le pied sur la fertilisation des sols cultivés, il faut qu'on puisse s'autoriser à produire un peu moins, et donc qu'on ait un peu moins d'animaux à nourrir.
Logique.
Et pour organiser cette nécessaire transition des filières de l'élevage, on a besoin d'agir à la fois sur la production et sur la consommation. Sur la production, d'abord, parce qu'on a besoin d'agir sur la taille de tous les cheptels, mais aussi sur les types de pratiques d'élevage, notamment avec plus de pâturage pour les ruminants et une meilleure autonomie alimentaire pour les élevages de monogastriques. Mais on doit aussi agir en même temps sur la consommation, parce que ce serait évidemment idiot de produire moins de viande ou de lait en France si c'est pour en importer plus d'ailleurs.
Voilà, la consommation, ça concerne donc chacun d'entre nous. Est-ce qu'il y a d'autres leviers politiques qu'il faudrait pouvoir activer ?
Atteindre les objectifs climatiques fixés au secteur agricole, non seulement à horizon 2030, mais encore plus à horizon 2050, ça va demander de repenser complètement notre système agricole et alimentaire. Donc oui, il va falloir déployer l'artillerie lourde en termes de leviers politiques pour accompagner cette transition. Il faut que l'ensemble des politiques agricoles et alimentaires convergent vers la reconception du système, y compris les politiques les plus structurantes, comme la politique agricole commune ou encore les règles commerciales.
Mission impossible ou il y a des signes encourageants d'une volonté politique allant dans ce sens et pas trop de freins sur le terrain ?
Je dirais qu'on est un peu au milieu du gué. Personne ne nie plus la nécessité de ces changements, mais la majorité des acteurs politiques, comme des acteurs économiques, sont à ce jour un peu trop effrayés ou crispés pour vraiment franchir le pas et mettre en œuvre ces changements. Il reste donc encore un très grand pas à franchir.
Merci beaucoup Aurélie Catalo. Je rappelle que vous êtes directrice du programme Politiques agricoles et alimentaires en France, à l'IDRI. Et on a compris en vous écoutant que les enjeux sont lourds, à la fois pour le secteur agricole et pour la planète. Merci, à bientôt.
À bientôt.
C'est la fin de ce coup de projecteur sur la nécessaire révision de la stratégie nationale bas carbone pour le secteur agricole pour réussir à atteindre cet objectif de 16% de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Vous pouvez retrouver tous les podcasts sur le site de l'IDRI, I2DRI, ainsi que sur les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur les comptes LinkedIn et Twitter de l'Institut. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.